Salut Claire.
Bonjour, Lana.
Bon bah aujourd'hui on a décidé de se parler parce que donc après c'est presque 2 mois de confinement via le réseau Université Sans Frontières 38, on a fait un petit état des lieux de la situation des étudiants étrangers ou même des étrangers tout court, plutôt les étrangers précaires à Grenoble. Donc des impacts du confinement sur leur vie. Et bah, tu as pas mal travaillé du coup à cet état des lieux. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire?
Oui, donc on a remarqué à partir des différentes situations qu'on a pu rencontrer au cours de ces derniers mois-là que le confinement avait quand même un impact important sur les questions d'hébergement. Ben, en premier lieu, tout d'abord, parce qu'il y a des personnes qui restent à la rue malgré le confinement, et particulièrement les mineurs non accompagnés qui n'ont pas été reconnus mineurs, ou alors les mineurs reconnus mineurs, mais en cette période deviennent majeurs ou sont devenus majeurs il n'y a pas longtemps et qui du coup ben, ne sont plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et du coup se retrouvent souvent sans toi. On a remarqué aussi que plus spécifiquement les étudiants soit continuent à être à la rue, soit ont des logements, mais pendant le confinement se sont retrouvés ailleurs au moment de l'annonce du confinement. Soit en ville au lieu d'être sur les hauteurs de Grenoble, soit dans d'autres villes, et n'ont pas osé rentrer en fait chez eux par peur des contrôles, soit parce qu'ils avaient des papiers pas forcément en règle, ou alors parce qu'ils avaient des récépissés et qu'ils n'ont pas jugé que c'était des papiers suffisants, ou simplement en fait pour détourner des lois, il faut déjà les comprendre, les connaître, savoir dans quelle mesure on peut les détourner. Et en fait, c'est plus difficile quand on est étranger et qu'on ne sait pas forcément dans quel milieu on évolue. Et puis, il ne faut pas oublier que parfois, les contrôles sont aussi beaucoup plus compliqués ou plus durs pour les personnes étrangères. Et on a aussi vu quelques cas où des personnes étaient hébergées dans des familles ou par des particuliers. Et ces particuliers n'ont pas souhaité que les personnes reviennent pendant le confinement, soit par peur du virus, soit par peur de l'ambiance, soit je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais du coup, c'est des personnes qui ont dû trouver un hébergement ailleurs pendant la période du confinement.
Du coup, ça veut dire que, en fait, c'est des personnes qui n'étaient pas donc forcément à la rue finalement à la base, puisqu'elles avaient une solution d'hébergement, mais que du
Oui.
fait du confinement, elles se sont retrouvées à la rue, soit parce qu'elles n'osaient pas prendre le risque de rentrer chez elles, ou elles comprenaient pas en fait que c'était possible, soit parce que les personnes qui les hébergeaient n'acceptaient pas en fait qu'elles reviennent, quoi.
Oui, ben ça leur a coupé leur hébergement et elles se sont retrouvées, alors pas toujours à la rue, mais des fois à trouver une solution d'urgence chez un ami, chez une connaissance, dans un hébergement pas forcément très grand, voilà, pour vivre les mois de confinement.
Ok.
Après, on a aussi constaté des soucis avec les personnes qui étaient hébergées, soit dans des centres d'hébergement ou des centres pour demandeurs d'asile, demandeuses d'asile, etc. Les conditions d'hygiène sont souvent pas respectées, mais aussi il y a un contrôle beaucoup plus important des entrées et des sorties, avec souvent un vigile qui empêche en fait toute sortie. Et d'ailleurs même toute sortie, même pour raison alimentaire, puisque on leur dit que la banque alimentaire ou un autre organisme vient leur apporter de la nourriture et que du coup ils n'ont pas besoin de sortir pour ces raisons-là. Il y a une autre raison pour le fait que les personnes restent cloîtrées ou alors n'ont pas pu se déplacer, etc. C'est que souvent sur leur papier, ce sont des adresses pas leurs adresses où les personnes résident pendant le confinement, mais des adresses administratives, par exemple l'adresse de la DAT ou l'adresse du centre social. Du CCS, pardon. Et du coup, les personnes n'osent pas bouger parce que elles sont pas confinées à l'endroit de leur adresse sur leur papier.
Oui,
Voilà,
tu
ça
parles des
joue.
adresses de domiciliation, quoi, dans des associations
Voilà,
ou des institutions
c'est
qui
ça.
fournissent juste une adresse pour recevoir le courrier, finalement.
Exactement. Et comme au moment des contrôles, l'adresse est contrôlée à partir des papiers, et les personnes n'ont pas osé se déplacer.
Ok.
ou n'osent toujours pas. Et puis, bah, comme je l'ai dit, il y a les personnes qui n'ont pas d'autorisation de séjour sur le territoire, qui du coup n'osent pas bouger par peur des contrôles et par peur de se faire arrêter tout simplement. Et aussi par peur des, bah, parfois du racisme ou de la violence qui peut émerger lors de ces contrôles.
Donc, on peut comprendre que les personnes qui n'ont pas de papier en règle, on va dire, aient peur du contrôle, parce que il y a de fortes chances qu'il sera forcément beaucoup plus injuste, violent et
C'est ça,
dangereux.
donc c'est un vrai frein en fait sur le déplacement, mais aussi sur le ravitaillement, sur plein de choses en fait, sur les démarches administratives quand elles existent encore.
Mais du coup, c'est un peu un cercle vicieux, je suppose, parce que j'imagine que les personnes qui n'ont pas de papier, donc c'est des personnes qui ont des problèmes de ressources financières, et en fait, le fait qu'elles n'osent pas se déplacer font que, ben, déjà, elles ont plus. Enfin, peut-être tu peux nous dire par rapport aux ressources financières, qu'est-ce qui se passe, mais en fait, du coup, elles n'ont pas le choix, enfin, elles ont peur d'aller sur les points de distribution alimentaire également.
C'est ça, et d'ailleurs, du point de vue des emplois, ça touche à la fois les étrangers, mais aussi les étudiants plus généralement. En fait, la situation financière de toutes les personnes déjà précaires est encore plus compliquée qu'avant, évidemment, notamment par la perte de tous les emplois type CDD, intérim, voire même les périodes d'essai. On a pu voir des personnes qui avaient obtenu un CDI, mais qui étaient toujours en période d'essai, qui ont perdu du coup leur contrat. Ou alors ceux qui se retrouvent en fin de contrat et étrangers, par exemple, et qui du coup ne peuvent plus rentrer dans leur pays, puisqu'actuellement la situation est quand même bloquée internationalement. Ou à l'inverse, des personnes qui devaient avoir un stage à l'étranger et qui du coup ont dû rentrer ou n'ont pas pu partir et se retrouvent sans logement, sans situation financière. Donc ça aussi c'est un souci. Et enfin, ben en fait, là, ça concerne les étudiants, mais les étudiants qui perdent leur emploi, ben, n'ont pas le droit au chômage puisqu'ils ont un statut étudiant et que c'est pas compatible. Donc, les situations sont quand même assez compliquées financièrement et forcément, ça impacte et les loyers et l'alimentation. Et là, on peut dire que ça concerne et les étudiants et les personnes étrangères assez. Et pour continuer sur cette question de l'alimentation, en fait, ça pose plein de problèmes. Donc, on l'a dit, toutes les personnes qui n'osent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce que elles sont personnes à mobilité réduite ou parce qu'elles sont seules avec des enfants ou pour tout un tas de raisons, ça pose déjà un vrai problème parce qu'il y a des distributions qui ont été mises en place, mais il faut pouvoir aller à ces distributions. En plus, il faut s'imaginer ces distributions, c'est quand même des files assez longues et il y en a que à certains moments de la semaine, et du coup, faut pouvoir y accéder. Et par exemple, pour les étudiants, ben, les étudiants n'ont plus accès au resto U qui quand même pouvait permettre d'avoir des repas de manière assez peu chère, assez fréquemment, voire même le Crous délivrait parfois comme aide des repas sur la carte ILU, qui est la carte qui permet de payer. Les repas au resto, ben ça c'est une aide qui n'existe plus. Alors le Crous a fait des distributions alimentaires 2 fois par semaine, mais c'est sur le campus, donc les personnes sont souvent hébergées loin, donc faut pouvoir y accéder. Et même pour les personnes qui peuvent y accéder, ben c'est des d'un ravitaillement qui tient 2 jours maximum, quoi. C'est pas non plus, ça va pas te faire une semaine avec, donc ça reste compliqué. Et puis il faut rappeler que les structures habituelles, type Resto du Cœur, Secours catholique ou autres, sont fermées. Alors on souvent mis en place d'autres solutions, mais qui valent pas en fait les solutions habituelles dans un contexte habituel, quoi.
Et les structures d'hébergement dont tu parlais tout à l'heure, type hébergement d'urgence, hébergement hivernal, logement pour demandeurs d'asile en particulier, qu'est-ce qu'elles ont prévu en fait pour cette période de confinement par rapport à l'alimentation justement?
Alors déjà, ça dépend des structures. Il y a des structures qui au début n'avaient rien prévu du tout. Et du coup, ça a mis quelques jours, voire quelques semaines à se mettre en place. Et d'autres avaient réussi à prévoir des choses, mais c'était des distributions alimentaires de repas déjà faits parce que pas d'accès à une cuisine. Donc les résidents n'ont pas accès à des cuisines et donc ne peuvent pas cuisiner. Et le problème, c'est que souvent, l'alimentation qui y est distribuée est à la fois pas assez nombreuse, donc les personnes ne mangent pas à leur faim, et pas adaptée en fait, ce qui fait que les personnes se retrouvent à devoir manger des choses dont elles n'ont pas l'habitude de manger, ce qui crée en fait des conditions sanitaires pas toujours évidentes, parce qu'en fait, simplement, elles sont malades de ce qu'ils mangent, quoi. Et en fait, le fait de ne pas avoir accès à des cuisines et le fait de ne pas pouvoir sortir, même pour s'alimenter, bah, ça génère des soucis à ce niveau-là, quoi.
Et du coup, c'est peut-être l'occasion de dire que sur Grenoble et l'agglo, on va dire, il y a pas mal de collectifs et assos qui se sont mobilisés sur cette question pour quand même pallier à ce problème, ne pas laisser les gens mourir de faim ou manquer de produits d'hygiène. Et bon, il y avait le RUSF qui avait fait un appel à dons pour aider justement pas mal de lieux où il y aurait beaucoup de personnes en difficulté, notamment le collectif d'Ourbi qui s'est organisé pour en fait qu'il y ait des distributions ou en tout cas un lien avec les habitants pour connaître leurs besoins en termes alimentaires et en termes de produits sanitaires à différents endroits de Grenoble. Donc avec toujours pas mal de questionnements éthiques sur comment on fait dans ces cas-là. Et en même temps, quand on sait que les gens en fait, n'ont pas suffisamment à manger, que les gens n'ont pas les moyens d'obtenir les produits pour nettoyer l'endroit où ils vivent, pour respecter ne serait-ce qu'un minimum de conditions sanitaires, hein, parce que c'est des gens qui vivent dans une grande promiscuité, donc avec l'impossibilité de respecter les gestes barrières, etc. Donc voilà, pour dire que quand même, il y a du monde qui s'est organisé sur cette question pour pas laisser tomber les gens, et aussi beaucoup pour dénoncer en fait la responsabilité des pouvoirs publics ou des institutions ou associations qui sont en charge de ces hébergements et qui du coup devraient s'occuper en fait de ces missions-là.
Et pour compléter, je crois que ce travail de dénonciation n'a pas été complètement vain, puisqu'on a quand même vu des changements dans certaines situations, dans certains centres d'hébergement, etc.
C'est vrai.
Alors, c'est pas optimal, on est d'accord, mais quand même, continuer à faire ce travail-là permet de faire des changements.
C'est sûr, c'est vrai. En tout cas, de ce que j'ai entendu des personnes qui vivent dans des structures d'hébergement, qui témoignent d'une amélioration quand même. Effectivement.
Ouais.
Et peut-être pour terminer, parce que quand même, tu parles au nom du RUSF, les conditions d'études dans tout ça, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ?
Eh ben, les conditions d'études, effectivement, c'est un gros point, notamment pour le RUSF, parce que le RUSF a à cœur d'accompagner les étudiants étrangers, donc qui sont principalement touchés dans cette crise du confinement aussi. Alors, déjà, le problème, c'est que y a plein de problèmes pour les études. À la fois, le premier problème auquel on pense, c'est l'accès à du matériel informatique pour pouvoir suivre des cours à distance. Donc, ordinateur, tablette et connexion Internet, une connexion Internet suffisamment importante pour pouvoir suivre des cours, pour pouvoir faire des visios, etc. Donc, déjà, ça, c'est pas toujours évident. Un autre problème commun évidemment à tous les étudiants, hein, mais c'est l'accès aux bibliothèques, donc notamment tous ceux qui doivent écrire des mémoires, des thèses, prendre des travaux, qui n'ont plus du coup accès à des sources de façon suffisamment conséquente. Mais ce qu'on peut dire aussi, en fait, c'est un problème souvent d'accès à un espace de travail ou à un espace suffisamment calme ou suffisamment isolé pour travailler. Que ce soit parce que ce sont des personnes hébergées en collectif, soit dans des lieux autogérés, soit dans des centres d'hébergement, soit simplement, aussi parce qu'ils vivent avec des enfants, des parents, des frères et sœurs, etc., ou une famille, et que c'est compliqué de s'isoler. Donc ça, c'est aussi un gros facteur de difficulté. Et il ne faut pas négliger, je pense, le facteur psychologique, en fait, toute cette situation génère du stress. Alors, soit en raison de la crise sanitaire, hein, du virus en lui-même, soit pour des questions de deuil aussi. Certains étudiants sont touchés par des décès de près ou de loin, ailleurs en France, etc. Mais aussi simplement du stress à cause des conditions d'études, de savoir dans quelles conditions les examens vont pouvoir être validés, de savoir que se passe-t-il pour les stages, est-ce qu'ils vont se poursuivre ou non, est-ce qu'ils vont pouvoir être validés ou non. Et puis, faut pas oublier que tout ça, que c'est du travail isolé et que le travail en groupe aide aussi en fait à mieux comprendre, à se tutorer les uns les autres, ou même certains étudiants dépendent aussi d'heures de tutorat dans des associations, dans des collectifs, etc. Et là, il n'y a plus cet accès-là et que c'est pas toujours évident d'arriver à comprendre tout seul quelque chose qui est complètement nouveau, parce qu'en fait on a commencé à étudier dans un autre système d'éducation et que du coup c'est pas tout à fait toujours le même niveau qu'il faut raccrocher, donc c'est pas forcément toujours évident. Et puis certains étudiants ont soit perdu leur emploi et perdu leurs ressources financières, ce qui fait que se retrouvent en difficulté pour se loger, pour se nourrir, etc., et que du coup derrière les études ça passe un peu à côté, ou alors inversement se retrouvent à devoir démultiplier leur travail, soit parce qu'ils travaillaient dans des supermarchés qui leur demandent d'en faire encore plus, ou parce qu'ils sont soignants ou autres, et du coup en fait trouver du temps pour les études c'est plus compliqué. Et en fait faut rappeler aussi, ça c'est des chiffres qui sont passés au sein de l'université, mais même s'il n'y a qu'un quart des étudiants, et c'est déjà un quart des étudiants qui rencontrent des difficultés matérielles, du type manque d'ordinateur ou manque de connexion Internet, il y a quand même presque trois quarts des étudiants qui ont déclaré qu'ils avaient du mal à suivre un enseignement à distance, parce qu'il faut rappeler que pédagogiquement, c'est pas la même chose, qu'en termes de présence, c'est pas la même chose, en termes d'espace de travail, c'est pas la même chose. Et que du coup, faut pas oublier toutes ces difficultés psychologique, pédagogique et autres, quoi. Ça se limite pas à simplement des difficultés matérielles.
Donc on sait que là maintenant arrive la période de déconfinement, ça va encore soulever des nouveaux enjeux et des nouvelles questions. Donc j'ai envie de dire la suite au prochain épisode.
Oui, tout à fait. On reste vigilant, en tout cas, on continue à être vigilant aux différentes situations, à faire remonter quand on peut faire remonter aux différentes institutions et essayer de faire bouger les choses quand on peut.
Et merci Claire pour cet état des lieux.
Merci à
toi. C'est super de partager tout ça.